Foi et tradition des chrétiens orientaux, une émission proposée par Sébastien Le Courtois.
Bonjour, ce matin au micro de France Culture, nous recevons dans Foi et Tradition Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, une institution vénérable née au milieu du XIXe siècle, en 1856, je crois, à la fin de la guerre de Crimée. Depuis, autour d'une première association destinée à aider les enfants du Liban, l'Œuvre agit sans relâche au Proche et Moyen-Orient, pour aider les écoles chrétiennes, les dispensaires et autres organisations de charité, dans un souci constant de dialogue entre les chrétiens de France et ceux d'Orient, et surtout, sur place, entre les confessions, même non chrétiennes. Alors si vous avez la tête dans l'histoire, Monseigneur, bonjour.
Bonjour.
Vous avez aussi les pieds dans la boue de notre époque, car notamment sur le front humanitaire syrien, l'œuvre est aussi très présente. Mais avant de passer à l'actualité qui occupera une bonne partie de notre échange, pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce qu'est l'œuvre d'Orient, institution que vous dirigez depuis maintenant 3 ans, son esprit, ses moyens et peut-être encore son amour partagé des chrétiens d'Orient?
D'abord, l'œuvre d'Orient est une œuvre catholique. Nous avons été fondés par des universitaires en Sorbonne au XIXe siècle, comme vous l'avez souligné, qui étaient donc des enseignants, des intellectuels, connus d'ailleurs, des mathématiciens comme le baron Cauchy, qui voulaient donc apporter la culture, soutenir ces extraordinaires écoles qui, en Orient, ont appris à des populations du Proche-Orient à lire, à écrire, qui ont appris la culture au service de l'ensemble de la population, aussi bien catholique, orthodoxe que musulmane, jusqu'à nos jours. Voilà. Nous avons donc été à côté de cet effort des communautés catholiques pour servir la population. Vous l'avez souligné, ces chrétiens sont forcément en lien d'abord entre les propres confessions chrétiennes, catholiques et orthodoxes, et puis avec les musulmans. Nous agissons à travers les communautés catholiques pour cet effort de dialogue. Nous ne dialoguons pas directement avec les musulmans, nous aidons les catholiques de ces pays à s'inscrire dans la société de leurs nations respectives, donc évidemment avec le monde musulman au milieu desquels ils se trouvent. Nous agissons sur le plan de la santé. Au début, au XIXe siècle, c'était ces petits dispensaires de village qui soignaient les familles, etc. Puis évidemment, c'est devenu parfois de gros hôpitaux. Maintenant, nous avons des soucis spécifiques, soit avec les personnes âgées et délaissées, isolées, car les structures sociales publiques ne sont pas aussi performantes que chez nous. Et puis, bien sûr, également, les personnes ayant un handicap mental, car là aussi, il y a un grand retard sur l'accompagnement de ces personnes et de leurs familles. Vous voyez, par exemple, je voyais en Galilée une maison tenue par les filles de la charité. Les filles de la charité, je veux dire, nos filles de la charité, là, de la rue du Bac, la médaille miraculeuse, qui tenaient une maison où il y avait des enfants handicapés mentaux. Je voyais dans la même pièce une famille musulmane, une famille chrétienne, une famille juive qui était penchée sur le berceau de ses enfants ayant un handicap mental devant vivre cela. Mais je peux vous dire que tous les problèmes politiques que le monde agite se sont comme effacés devant la douleur partagée de ces familles qui se reconnaissaient à travers ce drame et cet amour qu'elles avaient pour leur enfant handicapé mental.
Alors nous allons continuer un petit peu après, effectivement, sur ces témoignages qui sont extrêmement importants, je pense, à l'heure actuelle. Vous revenez de Bagdad, vous avez fait un voyage un petit peu d'exploration par rapport à la difficulté actuelle de toutes ces communautés chrétiennes d'Orient. Mais juste pour recadrer par rapport à nos auditeurs, peut-être certains d'entre vous d'ailleurs connaissent le fameux bulletin de l'œuvre d'Orient, cette feuille jaune qui donc depuis de nombreuses générations maintenant, on peut le dire, arrivée dans beaucoup de familles. Donc c'est une institution qui travaille depuis un siècle et demi donc à établir des liens et surtout à aider donc ces communautés chrétiennes d'Orient. Géographiquement parlant, comment on peut situer les limites de votre action, finalement?
Alors, nous sommes en effet une sorte de pont. Je vois qu'on parle souvent de pontif. Eh bien, il faut faire des ponts. De ponts entre les catholiques de France et les catholiques orientaux. Donc, moi-même, je suis prêtre catholique, je suis prêtre de Paris, je suis nommé par l'archevêque de Paris qui dispose de mon existence. Nous nous inscrivons aussi dans l'effort des évêques français dans le domaine caritatif et même à Rome, dans un organisme qui réunit les œuvres caritatives qui œuvrent en Orient. Nous sommes parfaitement une œuvre d'église, nous voulons être un pont entre ces deux mondes. Catholiques orientaux, cela veut dire quoi? Ce sont des églises qui ne dépendaient pas de Rome, qui ont existé, je dirais, avant nous. Nous étions encore avec nos druides dans les arbres quand ces églises existaient déjà en Orient. Ce sont des églises qui ressemblent à leurs sœurs orthodoxes respectives. Quand il y en a une, l'église maronite est exclusivement catholique, mais sans ça, l'église copte, l'église syriaque, l'église chaldéenne, qui est l'église de l'ancien empire perse, l'église éthiopienne, etc., ont une sœur orthodoxe dont l'enjeu œcuménique est extrêmement fort. Et ce sont des églises qui ont un droit particulier, avec un patriarche ou un archevêque majeur. L'un des aspects étranges de ce droit pour nous latins, c'est que les hommes mariés peuvent être ordonnés prêtres, c'est ce qui souvent surprend, alors que ce sont donc des catholiques en parfaite communion avec le pape de Rome, qui est le pasteur universel.
Mais c'est très important ce détail, parce que souvent on parle du mariage des prêtres, mais c'est pas ce dont on parle en fait, c'est des hommes déjà mariés qui peuvent avoir accès à une ordination.
Oui, nous retrouvons la tradition orientale dans le fait que souvent les évêques, ce sont des moines. Les moines, c'est vraiment ceux qui avaient fait vœux de chasteté, voilà. Et pour les besoins des villages, parfois on prend des hommes mariés pour les ordonner prêtres, donc ce n'est pas une tradition du mariage des prêtres, simplement c'est une autre tradition spirituelle dont nous sommes très proches, car il y a bien cette idée que pour être prêtre, eh bien, il peut être important de se donner exclusivement à sa mission et à Dieu, et c'est ça le sens du célibat.
Mais ce qui montre aussi la variété du monde catholique, finalement, qui est capable d'accepter toutes ces branches-là avec des traditions différentes.
Absolument, parce que ce sont des églises qui sont encore orientales dans leur culture et qui souvent ne doivent rien à l'influence gréco-latine. Ils sont sémites. Comme le monde musulman, comme le monde juif, et leur liturgie est très porteuse de ces racines sémitiques. Et on retrouve des liturgies chrétiennes sémitiques proches, par exemple, de ce qu'était la liturgie dans les synagogues ou au temple. Hein. Et leur langue est proche des langues sémitiques que nous connaissons. Donc ce sont des gens qui étaient cousins des Arabes musulmans lorsqu'ils sont arrivés au 7e siècle. Ils se sentaient très proches de leur culture. Ils savent ce que c'est qu'un chameau, ils savent ce que c'est qu'un désert, ils savent ce que c'est qu'un thé à la menthe. Et ils ont cette culture très forte qui est catholique, comme la culture grecque, comme la culture latine. Et par conséquent, ça montre bien que la catholicité de l'Église ne se confond pas avec sa seule latinité.
Alors, en termes de géographie, pour que les choses soient un peu plus précises, donc vous agissez au niveau des églises catholiques orientales, comme nous l'avons dit, mais ça couvre une superficie, une zone très importante. On va jusqu'au Kerala, en Inde, on va jusqu'en Égypte, le long du Nil, ensuite jusqu'en Éthiopie, en Iran, et bien entendu tout le bassin méditerranéen. Alors, on va maintenant aborder la question beaucoup plus précise de l'actualité, qui est une actualité pénible, lourde, et c'est important d'en parler dans le cadre de notre émission. C'est la question syrienne et de ses nombreux réfugiés. Alors, je voudrais juste dire quelque chose que vous n'oserez peut-être pas dire, mais l'œuvre d'Orient sert d'abord à collecter de l'argent. Donc, vous fonctionnez avec des dons, tout simplement, ou des legs, je crois, et vous distribuez cet argent. Vous avez une structure très légère, vous avez très peu de salariés, et je crois qu'il y a vous avez des sommes phénoménales qui partent directement dans toutes ces ramifications d'associations qui en ont besoin dans le monde entier. J'ai pu le vérifier moi-même, dans chaque endroit, il y avait toujours la présence de l'œuvre d'Orient où je suis allé, que ce soit en Irak, en Éthiopie, même j'ai vu à Harare, la petite mission catholique venait de recevoir son chèque de l'œuvre d'Orient pour des vaccins, par exemple. Voilà. La Syrie, maintenant. Qu'avez-vous remarqué? Vous revenez du Liban, je crois, vous avez visité des camps.
Oui, alors je reviens du Liban, je reviens aussi donc de Bagdad et du Caire, où dans ces deux pays, l'Irak et l'Égypte, il y a un nouveau patriarche, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler. Alors maintenant, pour la Syrie, c'est le drame. Ce pays est dans un processus d'autodestruction. C'est une situation très différente de ce qu'on connaît en Égypte ou en Tunisie ou ailleurs, puisque c'est l'Égypte et la Tunisie, c'est un terme au monde sunnite. Je pense que nos auditeurs savent bien qu'il y a deux branches dans l'islam, l'islam sunnite et l'islam chiite ou proche du chiisme. L'Égypte et la Tunisie, c'est propre au monde sunnite. Par conséquent, ça n'a pas le caractère, je dirais, de guerre de religion. C'est une guerre pour la démocratie, on va dire. Tandis qu'en Syrie, c'est un conflit entre les chiites et les sunnites, finalement. Le régime syrien était obligé d'être autoritaire parce qu'il reposait sur une minorité alaouite, c'est-à-dire proche des chiites. Et on comprend très bien qu'un régime assis sur une petite minorité est obligé d'être autoritaire pour se maintenir au pouvoir. Donc nous avons là, en Syrie, un conflit entre sunnites et alaouite, donc entre sunnites et chiites, et qui est dramatique parce qu'il est frontal, il est irrationnel, il est dans un processus d'autodestruction, il est dans une phase d'enlisement, nous ne voyons pas de solution même militaire sur le terrain, donc c'est un conflit qui peut durer encore des années, qui porte sur une population civile qui est dans le désarroi, avec la destruction de maisons, la destruction d'infrastructures, des millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie et un million de réfugiés dans les pays avoisinants, spécialement la Turquie, le Liban et la Jordanie, qui risquent de déstabiliser en tout cas le Liban et la Jordanie, ainsi d'ailleurs que l'Irak, qui risque d'être entraîné dans ce conflit. Vous avez peut-être vu que la semaine dernière, il y a eu des soldats syriens qui s'étaient réfugiés en Irak, qui ont été tués par des djihadistes. Par conséquent, c'est très déstabilisant pour la région. Nous ne voyons pas d'issue. La population souffre terriblement. Les chrétiens sont dans l'inquiétude. Non pas qu'il y ait jusqu'à présent des violences spécifiquement chrétiennes, mais c'est en train de changer. C'est en train de venir. Nous commençons à entendre des violences qui se veulent spécifiquement antichrétiennes. Donc les régions qui sont tenues par les rebelles ne sont pas sécurisées. Et l'une des choses que nous demandons aux puissances occidentales qui ont pris parti dans ce conflit, bon, ils ont pris leurs responsabilités, mais à ce moment-là, elles ne peuvent pas se désintéresser de savoir si la sécurité est assurée dans les zones rebelles. Ou on prend parti, ou on ne prend pas parti. On ne peut pas prendre parti et botter en touche sur sa sécurité.
Est-ce que ce sont des demandes des gens sur place que vous avez rencontrées est-ce qu'il y a une demande de sécurité particulière pour ces zones, justement, qui ne sont plus sous la dépendance du régime syrien ?
Oui, bien sûr, parce que, encore une fois, ce n'est pas tant qu'il y a eu des violences spécifiquement antichrétiennes, même si je redis qu'elles commencent à venir. Mais quand les structures de la police, de la justice, de l'armée s'écroulent, comme ça s'est fait en Irak, eh bien, la minorité, c'est tout de même une minorité, les chrétiens, en plus, c'est une minorité qui, heureusement, n'est pas armée, c'est une minorité qui ne dispose pas d'un territoire à elle, donc une minorité qui ne dispose pas de structure politique régionale pour la protéger. Cette minorité devient forcément en but au premier venu. Donc, il y a une insécurité qui n'est pas d'abord religieuse, jusqu'à présent, mais qui est une insécurité de banditisme. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont kidnappés contre des rançons. Voilà. Il y a des problèmes de voisinage qui sont réglés à coups de Kalachnikov. Par conséquent, les familles, voyant cela, se sont dans l'angoisse et s'en vont, s'enfuient. Alors, quand c'est une petite minorité où les gens s'en vont, ben, la petite minorité elle est extrêmement fragilisée. Et donc, moi, nous appelons vraiment les puissances occidentales, puisqu'elles sont intervenues dans ce conflit. Je ne porte pas de jugement de cela, je ne suis pas un homme politique, je suis un prêtre. Mais puisque nous avons pris parti, nous devons être responsables des conséquences de cette prise de parti. Et par conséquent, nous devons veiller à la sécurisation des zones qui sont tenues par les rebelles. Et nous avons les moyens de faire suffisamment d'influence, de pression, pour exiger que les zones tenues par les rebelles soient des zones sécurisées, en particulier pour les chrétiens.
Je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de Foi et Tradition ce matin sur France Culture. Nous recevons Mgr Gollnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient, et nous évoquons la question syrienne. Alors, une autre question, c'est la question des réfugiés proprement chrétiens. Alors, pardonnez-moi encore une fois de mettre de surligner cet aspect chrétien, parce qu'on parle beaucoup de réfugiés, mais est-ce que les familles chrétiennes commencent à partir ou pas? Ou est-ce que ça dépend des zones un petit peu?
Oui, les familles chrétiennes partent, bien sûr, puisqu'elles sont une minorité fragilisée. Mais, d'une certaine manière, ce départ des chrétiens est plus lourd pour la communauté chrétienne que le départ, par exemple, de musulmans alaouites ou de musulmans sunnites, puisqu'ils se sont de gros groupes. Cependant, les chrétiens ne sont pas ceux qui souffrent le plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, d'une certaine manière, un réseau qui permet de les accueillir. Je dis, ce n'est pas ceux qui souffrent le plus quand ils partent, parce qu'ils sont plus pris en compte par une sorte de solidarité chrétienne. Et nous voyons donc des camps de réfugiés colossaux au nord de la frontière avec la Turquie, où ce sont là des villages de toile, ainsi qu'au Liban. Je les ai visités il y a quelques jours, de familles qui dépendent totalement de l'assistance qu'on peut leur apporter sur le plan sanitaire, sur le plan de la nourriture, sur le plan du chauffage. Ce sont des régions où il fait froid la nuit actuellement. Et puis en Jordanie, qui est un petit pays qui doit faire face à une entrée massive de réfugiés, le Liban peut tout à fait déstabiliser. Et c'est très inquiétant. Le Nord-Liban risque d'être complètement mis à feu et à sang selon l'évolution de la crise syrienne. Donc il est urgent que cela s'arrête. Sans ça, il va y avoir des conséquences terribles pour ces pays. Alors les chrétiens sont donc souvent accueillis par des cousins, par la famille, par les paroisses, par les caritas, qui font un travail remarquable, par les ordres religieux. Et ils vont souvent à Istanbul aussi, où il y a aussi des choses, des structures qui se mettent en place pour les accueillir, parce qu'ils essayent d'aller là où il y a des corps diplomatiques pour essayer d'avoir des visas pour partir en Europe, en Amérique du Nord ou latine, et puis en Australie, où ils espèrent comme ça ainsi être accueillis, être hébergés et refaire leur vie. Parce que ceux qui partent, il est peu envisageable qu'ils reviennent, même si la situation se stabilisait en Syrie.
Alors, je crois que l'œuvre d'Orient agit aussi directement en Syrie. J'ai entendu parler d'une action à Homs, auprès des pères jésuites, qui ont réouvert des écoles. Alors c'est quand même un exemple extraordinaire, parce que ce sont des chrétiens, des petits-enfants chrétiens et musulmans, bien entendu, qui sont accueillis. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Voilà, comme vous l'avez souligné, nous recevons des fonds privés des Français, généralement des chrétiens de France, mais pas exclusivement. Tous ceux qui comprennent l'importance de cette présence chrétienne pour l'équilibre du monde méditerranéen nous aident, et nous avons apporté presque 1 million d'euros d'aide d'urgence pour la Syrie. Et c'est vrai que nous pensons notamment aux chrétiens de Homs, cette ville qui a été durement touchée, durement éprouvée, qu'il est encore. Parmi les rebelles, il y a des chrétiens dans ce réduit tenu par les rebelles et régulièrement bombardé par l'armée. Il y a un père jésuite qui est néerlandais, qui est octogénaire, qui reste courageusement depuis des mois avec quelques chrétiens dans des sous-sols. Et nous aidons donc effectivement au soutien d'urgence alimentaire, bien sûr, mais aussi la scolarisation des enfants, parce que les enfants sont déscolarisés depuis 1 an, depuis 2 ans, c'est extrêmement grave, parce que ça les marginalise complètement dans cette période importante de leur vie, et ils risquent d'en supporter les conséquences durablement. Donc nous faisons de gros efforts pour essayer de maintenir en scolarisation les enfants, ce qui permet aussi de resocialiser les familles déplacées, c'est tout à fait essentiel. Nous agissons d'ailleurs de même avec le Secours catholique, avec le Saint-Sépulcre, l'Ordre de Malte, l'aide à l'Église en détresse. Nous faisons, le CCFD, nous faisons de gros efforts ensemble pour apporter de l'aide d'urgence. Alors nous, à l'œuvre d'Orient, nous apportons notre aide aux communautés catholiques, non pas pour apporter aux catholiques un privilège par rapport à d'autres, de toute façon on en est très loin, mais parce que nous aidons les catholiques à assurer une mission au service de l'ensemble de la population. Et les catholiques sur place ont vraiment une attitude profondément évangélique envers la population en détresse, quelle que soit sa religion. C'est ça qu'il faut comprendre. Les communautés catholiques, dans leur action caritative, donnent une crédibilité à l'Évangile, qui est un gage de maintien des communautés chrétiennes sur place. Et nous aidons ces communautés catholiques selon leurs besoins qu'ils nous expriment. C'est eux qui nous disent ce dont ils ont besoin pour que nous puissions leur apporter de l'aide. Nous avons à peu près 800 projets d'aide. Ce sont parfois des sommes qui ne sont pas énormes, mais qui sont remises. Vous voyez, nous les connaissons. Nous appelons au téléphone, nous allons les voir, ils viennent à Paris, nous les rencontrons. Et c'est tout ce tissu qui est créé qui donne toute une force à notre action.
Alors je voudrais que nous passions quelques minutes à commenter d'une certaine manière la très belle surprise de cette semaine qui est l'élection d'un nouveau pape. Alors ce qui m'a frappé et ce qui n'a pas vraiment été relevé par les commentateurs en général, vous me direz votre sentiment là-dessus, c'est qu'il s'est présenté plusieurs fois comme l'évêque de Rome, mais nous-mêmes qui sommes un peu avertis sur les questions de hiérarchie, qui sont des questions très susceptibles par rapport au monde orthodoxe ou au monde oriental en général, est-ce qu'il ne faut pas voir aussi un message subliminal par rapport à l'autre partie du monde chrétien ? Donc ce monde catholique oriental, donc avec chaque église à son propre patriarche, et aussi le monde orthodoxe. Qu'en pensez-vous, Monseigneur ?
Vous savez, c'était très impressionnant pour nous parce que nous avons installé le nouveau patriarche à Bagdad. C'est l'église des Chaldéens, sa béatitude, c'est son titre. Monseigneur Raphaël, qui est un francophone et francophile absolument remarquable, qui est un homme de dialogue non moins remarquable, qui a beaucoup travaillé en nord de l'Irak pour aider sa communauté chrétienne dans le dialogue qu'il a eu avec les communautés musulmanes dans un contexte très difficile, qui est la frontière entre le monde arabe et le monde kurde. Et donc, il a été fait patriarche. Et puis, mardi, j'étais au Caire, parce que c'était le nouveau patriarche copte catholique, avec un événement très considérable, évidemment. Les informations étaient centrées sur la lumière à Rome, de la fumée. Mais c'était un événement très considérable, car le patriarche orthodoxe copte est venu participer à la messe d'installation, à la cérémonie d'installation du nouveau patriarche copte catholique. C'était un événement considérable pour les chrétiens d'Égypte. Ça donne une force considérable aux chrétiens dans leur rôle à venir dans la société égyptienne. Alors oui, ces patriarches sont les responsables de ces églises. C'était très émouvant de vivre cela simultanément à l'entrée en conclave à Rome. Et bien sûr, ils ont beaucoup d'amour pour le pape. J'étais avec des religieuses qui regardaient la télévision pour savoir quel pape il allait être fait. C'était impressionnant de vivre cette communion catholique dont nous devons prendre conscience. C'est un événement qui ne touche pas que les Français, que les Européens. C'est un événement mondial. Il y a des chrétiens dans tous les pays du monde qui voient, qui vivent cet événement. Or, le pape, c'est d'abord l'évêque de Rome. C'est le successeur de Pierre, évêque de Rome. Et par conséquent, il est pape en tant qu'évêque de Rome. Il n'est pas au-dessus des évêques, si vous voulez. C'est un évêque, c'est le premier des évêques, exactement comme Pierre n'était pas au-dessus des apôtres, mais un apôtre, le premier des apôtres, le chef des apôtres. Voilà. Et donc c'est très juste, ecclésialement, théologiquement, que le nouveau pape se soit présenté comme l'évêque de Rome. Et c'est évidemment une manière intéressante de s'articuler avec les communautés orientales. C'est l'Église de Rome qui préside à la charité. Vous avez noté qu'il l'a lui-même énoncé. Mais c'est d'abord dans l'ordre de la charité. Et puis, c'est encore une fois parce qu'il est évêque de Rome qu'il est pape. Vous voyez, c'est pas super, super évêque.
Et je crois qu'il y a beaucoup donc il est argentin, de Buenos Aires. Il y a beaucoup de communautés aussi de chrétiens d'Orient en Amérique du Sud en général. Donc vous pensez qu'il a une manière de les connaître plus facilement ?
Absolument. Je pense que c'est un homme qui connaît très bien ce monde des catholiques orientaux, parce que, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de communautés orientale catholique en Amérique latine, c'est un pays d'accueil pour ces migrants, si vous voulez. Et lui-même, je crois, avait ce rôle de veiller particulièrement en Argentine sur les catholiques orientaux. Donc c'est une réalité qu'il connaît bien. Et il va de soi que, comme son prédécesseur, je vous rappelle que Benoît XVI, son dernier grand texte était une encyclique, en quelque sorte une exhortation post-synodale, pour prendre le terme technique, pour les orientaux. Et puis, il avait donc accepté ces deux nouveaux patriarches orientaux. Et son dernier grand voyage, c'était à Beyrouth. C'était très impressionnant. Et je suis sûr que le nouveau pape prendra à cœur cette question des chrétiens d'Orient et évidemment du dialogue œcuménique avec les orthodoxes.
Alors pour revenir, on va bientôt terminer, pour revenir sur cette question du voyage de Benoît XVI au Liban il y a quelques mois, j'étais très surpris de voir tous les officiels musulmans, entre guillemets, les responsables même du Hezbollah étaient là, ce qui montre un petit peu aussi la place des chrétiens particulière dans ces sociétés-là, un petit peu des maillons.
Le responsable chiite du Liban a demandé 40 000 places pour que des musulmans chiites du Hezbollah assistent par respect pour le pape à la messe qu'il a célébrée. Le responsable sunnite a dit que c'est un honneur et un bonheur pour tous les musulmans du Liban de recevoir le pape. Donc faut, vous voyez, vous parliez de la boue du monde contemporain dans ce pays. Oui, c'est vrai qu'il y a des angoisses, des tristesses et des violences, mais il y a aussi beaucoup de signes d'espoir.
Et vous pensez qu'avec le nouveau pape, nous allons continuer dans dans ce mouvement ?
Je ne doute pas de cela.
Je remercie, merci beaucoup Monseigneur d'être venu avec nous ce matin. Je remercie Dany Journeau pour la réalisation de cette émission et Jazan Taous pour le son. Émission que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, donc dans l'anglais Foi et Tradition, et que vous pouvez réécouter en podcast ou balado diffusion. Nous retrouvons maintenant le service protestant et Michel Schaeffer.